Amis de Radio Occitanie de la Poésie, bonsoir, les poètes, une émission de Claude Bretin et Christian Saint-Paul. Alors avant de rejoindre notre invité ce soir qui est à Athènes, je voudrais faire rapidement deux signalements. Tout d'abord, les rencontres du centre Jean Bousquet de Carcassonne, à la maison des mémoires, 53 rue de Verdun à Carcassonne, organise samedi 18 mars 2017 à 15h30, une rencontre poésie et peinture avec Claude Clarbous, qui est un plasticien, et Michael Gluck, qui est un poète. Il y aura lecture et entretien. Alors vous trouverez sur notre site des informations et des précisions sur cette rencontre. Il y aura également Matière Noire Éditeur, ces éditions qui ont été créées en 1992 par le peintre et graveur Michel Rosserel, qui est mort en 2007, et le poète Jean-Marc De Benetti, qui lui est décédé, était né en 1953, il est décédé en 2019, et Monique Rosserel, typographe. Voilà, je vous invite donc à vous rendre à Carcassonne, et nous reparlerons peut-être lors d'une émission de Michael Gluck. Et ensuite, deux publications que je tenais absolument à signaler, étant précisé que ces livres feront l'objet chacun d'une émission spécifique. Alors le premier, il s'agit d'une nouvelle traduction du romancier gitane de Federico Garcia Lorca, suivi de Complaintes funèbres pour Ignacio Sanchez Mejías, traduction nouvelle donc de l'espagnol par Michel Host. Michel Host qui a eu le prix Goncourt en 1986 et qui nous livre là sa traduction. Alors c'est une publication très agréable puisqu'elle est bilingue, donc espagnol-français, de l'ensemble de cette œuvre fondamentale de Federico Garcia Lorca, avec une très belle présentation aussi de Michel Host. Alors Michel Host nous fera l'amitié de venir nous parler de ce livre, de ce romancero gitano qui est repris, et bien sûr du duende, hein, le duende qui est surpassement, dit-il, et en cela lié tout ensemble à la chair et à l'esprit, à la mort, au temps certes, mais aussi à la terre, au champ, à la plénitude, à l'éternité cosmique et à la conscience de l'être au monde, joie et peine entremêlées au poème du monde. Par conséquent, il habite Federico Garcia Lorca, le romancero gitano, et quoique revêtu de ses oripeaux français, nous dit Michel Host, j'espère ne pas l'en avoir chassé. Deuxième publication, alors ceci est aux éditions Alcyone, dirigée par Sylvain Arabeau, et ça coûte 16 euros. Vous aurez tous ces renseignements sur notre site les-poètes.fr. Et puis, un nouvel éditeur que je ne connaissais pas, qui s'appelle les éditions Le Bateau Ivre, hein, Le Bateau Ivre, donc, comme Rimbaud. C'est notre ami Yves Charnet qui fait paraître là sa dernière création, qui s'appelle Dans son regard aux lèvres rouges, donc édité au Bateau Ivre, donc. Et ça vous coûtera 19 euros. Yves Charnet a déjà présenté à la librairie toulousaine Ombre Blanche cette publication qui s'inscrit parfaitement dans ce qu'il a, le style Yves Charnet des publications antérieures. Et nous aurons le plaisir, de nouveau, de faire, bien entendu, une émission consacrée, une émission pleine et entière à cette publication. Très vite, voici ce que dit dans sa postface Jean Delabroix. Tu t'es forcé de ne pas penser à la langue de l'autre. Dans la bouche de ton amante partagée, la plupart du temps, tu faisais comme si Romy n'aimait que toi, tes ficelles de fils unique. Tu te faisais ton cinéma. Prise de vue, prise de guerre, tu aurais voulu la faire prisonnière dans le grand jeu de ta petite vie, qu'elle ne reparte jamais, plus jamais, tu étais piégé dans son regard aux lèvres rouges. Voici, on reconnaît immédiatement ce style haché, ce style de cette autofiction dont il est véritablement le maître, je crois, de ce style, cette littérature en France. On reconnaît là bien le ton de Yves Charnay que nous aurons le plaisir d'avoir. Alors, il y a 15 jours, nous parlions avec Joël Montèche. Nous parlions avec Joël Montèche de cette anthologie de la poésie grecque 1975-2005 par Kostas Nasikas et Demosthène Agrafiotis, publiée dans la collection Levée d'encre aux éditions L'Harmattan. C'est une édition bilingue grec-français, traduit du grec par Kostas Nasikas et Hervé Boer. Et Joël Montèche nous a fait une très belle émission là-dessus, qui est déjà en ligne sur notre site les-poètes.fr et qui sera bientôt, bien sûr, complété du compte rendu de l'émission qui sera ajouté à, sur notre site et diffusé, bien sûr, à l'ensemble de nos milliers de destinataires. Alors, dans cette émission, Joël Montèche nous parlait très souvent, avec beaucoup d'admiration, de Demosthène Agrafiotis. Demosthène Agrafiotis, nous l'avons ce soir en ligne. Demosthène, bonsoir.
Bonsoir. Merci. C'est grand plaisir et grand honneur d'être avec vous à Toulouse, à travers la technologie moderne. Parfois, pas très viable, mais on fait le compromis.
On se comprend, Demosthène. Alors, merci beaucoup d'être avec nous ce soir pour nous parler, bien sûr, de cette anthologie. Vous êtes un des principaux instigateurs, mais également pour parler du Demosthène Agrafiotis, plasticien, poète, performeur, conférencier. Alors, si vous le voulez bien, on va continuer quand même par parler de cette anthologie de la poésie. Alors, il y avait Joël Montèche nous en a magnifiquement parlé. Hein. Elle a d'ailleurs, je tiens à le signaler, le lendemain de cette émission, Joël Montèche s'est produit dans une petite salle ici de la maison de l'Occitanie pour un festival qui s'appelait les 50 poèmes pour la neige, et elle a magnifiquement parlé également de Constantin Cavafy. Et elle a lu des textes donc de ce poète grec, mais également des textes de Demosthène Agrafiotis qui ont été beaucoup applaudis par l'assistance.
Voilà. Alors, c'était introduction pour notre émission de ce soir.
Voilà. J'imagine. Alors, cette anthologie, il y a une question à laquelle.
Alors, cette anthologie a été créée, a été élaborée parce qu'il y avait une demande quand j'étais en France aux années 80 ou à la fin des années 70, quand il y avait les changements politiques en Grèce, parce qu'il y avait les régimes militaires, et après la fin de ces régimes militaires, il y avait une question, est-ce que la poésie a joué un rôle ou est-ce que la situation politique a une influence sur la poésie? Et est-ce qu'on peut dire un événement politique pourrait être à l'origine d'un changement poétique? Il y avait des questions de ce type. Malheureusement, pour moi, c'était très difficile de répondre parce que aux années 70, j'étais à Paris. J'ai suivi un petit peu la poésie grecque, mais quand même, j'étais pas présent ici en Grèce pour avoir une information systématique. Alors, j'ai dit d'accord, je peux faire une recherche en Grèce et je prépare une anthologie pour répondre à vos questions. Et voilà, c'était ça l'idée, c'est de donner une anthologie très spécifique. C'est pas une anthologie de la poésie grecque en général, c'est pour ça qu'il y a cette période 1975 et 2005. Et c'était surtout pour les poètes qui ont travaillé après les régimes militaires, après la fin du régime militaire. C'était pouvoir, soi-disant, à la fin du XXe siècle, quelle était vraiment l'atmosphère poétique, et aussi quels étaient vraiment les poètes qui voulaient, qui a travaillé pour cette atmosphère poétique. C'était ça la commande, soi-disant. Et en plus, il y avait une idée, des créations des ponts entre le poète grec et le poète français, et à travers des séminaires. C'est pour ça qu'on a fait cette anthologie bilingue, pour voir la possibilité d'organiser des conférences, des workshops, des séminaires, pour trouver une sorte de dialogue continu entre les poètes grecs et les poètes français. C'est un objectif qui n'était pas vraiment achevé, mais ça pourrait être au futur. Voilà, c'était ça l'origine de cette anthologie.
Très bien. Bon, je pense que ça a dû demander quand même beaucoup de travail, quand on voit le nombre de poètes que vous avez...
Oui, après, quand j'étais ici en Grèce, dans les années 80, j'ai fait presque un travail anthropologique.
Oui. Ah, oui.
J'ai cherché sur les groupes ethnologiques des poètes grecs, et j'ai essayé de comprendre qu'est-ce que c'était l'atmosphère, qu'est-ce que c'était les poèmes qui ont joué un rôle important et tout ça. Et à travers une approche plutôt anthropologique qui est, soi-disant, littéraire, il y avait une sélection des poèmes, et après il y avait un travail de traduction par Kostas Nasikas, Hervé Boer, et à la fin, après une longue période de préparation, le livre est sorti. Voilà, c'est ça une histoire assez condensée de cette aventure.
Alors, cette anthologie rend compte d'abord de la richesse de la création poétique en Grèce.
Oui, parce que quand même, il y a une tradition forte pour la poésie en Grèce.
Oui, bien sûr.
Qui est le
pays d'origine presque de la poésie, on peut dire, hein, puisque poème, elle a
rappelé... Pour le monde occidental, c'est une origine forte.
Voilà.
Ça on peut le dire.
Oui. Alors, ce qui m'avait, marqué dans cette anthologie, c'est que ce sont des poètes qui ont connu cette longue période de la dictature, qui en sont sortis.
Oui.
Mais l'ensemble des auteurs se situe dans un créneau d'une dizaine, mettons d'une douzaine d'années. Ils ont, à 12 ans près, ce sont des gens qui ont le même âge.
Oui, c'est à peu près ça. Oui, parce que c'était. Il faut dire qu'il y avait d'autres poètes bien connus qui étaient actifs, mais ils ont commencé leur travail aux années 60. Et ces poètes ne sont pas inclus dans l'anthologie pour des raisons formelles. Mais ça, c'est surtout pour les poètes qui ont commencé à travailler d'une manière systématique juste après la chute du colonel.
D'accord. Et actuellement, si l'on refaisait une anthologie avec des poètes, disons, on ferait une anthologie de 2000 à 2017, il y aurait une grande différence dans le ton?
Oui, parce qu'il y a une nouvelle génération, il y a des éléments maintenant qui apparaissent, parce que il y a une sorte de retour à la poésie, mais c'est une poésie qui c'est assez personnelle, assez lyrique, il se pose pas beaucoup de questions au niveau social,
politique.
L'autre côté, il y a quelques groupes qui ont une orientation très politique. Tu vois, il y a maintenant une sorte de séparation, une sorte de division de travail poétique, presque.
D'accord.
Et après, il y a quelques groupes qui s'intéressent maintenant à la poésie, soi-disant, plus ouverte, poésie et en relation avec la musique, avec la performance et tout ça.
D'accord.
On commence à voir maintenant une variété plus prononcée, et en plus on voit qu'il y a plus de liaisons avec des poètes à l'étranger, il y a des échanges, chose qui n'était pas très répandue à la fin du XXe siècle.
Alors, vous faites un peu la liaison entre ça, puisque vous êtes poète, mais vous êtes plasticien. Vous faites de la peinture, vous faites de la photographie, et vous faites également
toujours...
de la performance. Donc,
vous
inscrivez quand même dans la ligne actuelle.
Je suis dans le...
Et même l'intermédiaire.
Voilà, c'est dans la tradition d'un peu d'intermédiaire,
oui.
Telle qui était définie par Dick Higgins. à New York avec les Fluxus, etc., etc. Alors, j'avais toujours un intérêt très fort pour voir comment les différents expressions artistiques s'articulent. Si c'est possible de trouver des projets qui ont une tendance transversale. Et c'était ça mon intérêt. Et voilà, quand je dis que j'ai une activité artistique, et par exemple dans la photographie, mon intérêt c'est pas la photographie, je suis pas un photographe, mais je pose la question de quelle mesure je peux trouver une sorte de dialogue entre la poésie et la photographie.
Oui, oui.
C'est un travail au niveau des frontières, et un travail au niveau des interfaces.
D'accord. Alors, on peut vous avoir vos créations sur un site, hein, www.dagrafiotis.com.
Oui, 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 c'est hein, donc, un site.
Ouais,
mais aussi, c'est notre site web, oui. Avec www.chrisiology.org. Chrisiology.org. Parce que je fais un site web autour de la crise. Parce que maintenant, c'est notre phénomène.
Oui.
C'est en relation avec la question que vous avez posée tout à l'heure.
Oui, oui.
Et depuis 7 ans, la Grèce vit sous la pression, sous l'influence, sous la folie de la crise, comme on dit.
Oui.
Alors c'est pour ça que j'ai créé un site web pour explorer cette question de la crise. Et j'écris beaucoup de textes soi-disant théoriques et beaucoup d'essais sur la crise. Et je pose la question de quelle mesure le mot crise est capable de créer un genre d'accès vers la réalité grecque. Alors je ne suis pas sûr que le mot crise est toujours le mot le plus apte pour ça. C'est-à-dire que parfois on utilise les mots crise d'une manière assez spéciale, parfois pour cacher ou pour créer une sorte d'écran à travers, on ne peut pas voir très bien la réalité.
Oui.
D'où l'expression crisiologie et pas crise.
Oui, oui, oui. Je vais le monter, je rappelais que vous mettiez toujours en exergue les deux sens du mot crise.
Oui, oui, c'est essayer de comprendre pourquoi ces mots ont un tel succès maintenant, soi-disant.
Oui. Alors, par contre, ce site dont vous parlez, où vous expliquez sur la crise, entre guillemets, est-ce que c'est en quelle langue? C'est en grec ou...
Mon site web?
Oui.
C'est en anglais,
et en grec.
D'accord. Et parfois en français.
Ah,
et mon site personnel, c'est en grec, en français et en anglais.
D'accord. Donc les auditeurs français peuvent y aller, hein?
Oui, oui, oui. J'ai fait ça parce que...
Ils ne sont pas déconcertés.
Comme j'ai beaucoup de collaborations avec les poètes et les artistes français, j'ai fait mon site web en 3 langues.
Très bien. Alors, si vous voulez bien, Démosthène, on va vous écouter tout de suite dans vos œuvres. Vous avez la parole, là, pour...
Alors, peut-être on peut dire un poème?
Bien sûr.
C'est le moment?
C'est absolument.
Alors, je crois qu'on peut commencer parce que c'est Marie-Hélène Stavrou à côté de moi.
Oui.
Moi, je vais lire en grec et elle va lire en français. Alors, nous voulons commencer avec la revue Les Vents.
Ah oui.
Qui c'est les cahiers d'espace méditerranéen.
Oui, de Michel Écart.
En octobre.
Oui, Michel Écart et Lial.
2010.
Oui.
Dans laquelle nous coexistons.
Oui, c'est vrai.
Comme ça. Alors, je vais lire les textes. C'est un poème extrait d'un livre qui s'appelle en grec Topiima, mais en français c'est Topoème. Et c'est une question entre topos, lieu, et la poésie. Mais en grec, c'est topos et pima, topima. Ça crée une liaison très intéressante qui n'est pas très claire en français. Mais en tout cas, voilà.
On vous écoute.
Et, pe, o, chi, i, epsilon, pi, omicron, chi, i, epochi, tombodicon, εποχή της ανάπαυσης, απορρίμματα από την επιστροφή των χρόνων, θάλασσα, θάλασσα, Νύχτες, δίχως ισοδύναμα ερωτήματα, δίχως νόρμες ανάκτησης. Κυκλοφορία παρά, λιλή, τρόποι φόβος των κυλίδων, πρωινές φορτωτικές, θος πίθος ή μύθος, πίθος ή μύθος. Μεγάλες λέξεις για τα μίση, πάνω σε σαφρές νησίδες, αυτό αναιρείται, στην ορθαργία των καθαρών. Εξουσιώτηση από τις τόσες πληγές. Κρυφές, σώμα γυμνό, κυνηγημένο στα νυχτερινά ιδύλια. Σίγουρα άγνωστοι ταξιδιώτες στα περίχωρα των απλών διασυνδέσεων. Λάβα, παραπομπή, άσημη και κυκλική. Βόρειος Έλλας, η χαμένη στους πάγους, σανδάλια. Στην είσοδο των ηφαιστείων, δοχείο για τα κόμματα, αναδιπλωσή της. Η Μαριέλεν Σταυρού.
L-P-O-Q-U-S. Époque des souris. Époque du repos. Rejet du retour des contemporains. La mer. Nuit sans question équivalente. Sans normes de récupération. Circulation parallèle. Manière. Peur des tâches matinales. Connaissement. Labyrinthe. Ou. Mythe. Grand mot au sujet de la haine. Sur des îlots pourris. Se rétractant dans la nostalgie des pures autorisations. Partant de blessures cachées. Corps nu poursuivi dans les idylles nocturnes des voyageurs, certainement inconnus dans les alentours des simples connexions. Lave renvoyée à inconnus et circulaire aurore boréale, ceux perdus dans la glace, sandales à l'entrée des volcans, sceaux pour les factions politiques, repli de...
Voilà, c'était un hommage à la revue Le Vent, oui, que c'est la revue du peuple du Sud, comme on dit.
Alors, c'est le cahier de l'espace méditerranéen qui continue.
Exactement.
Avec les éditions Le Vent, nous avons signalé les dernières publications. Et il se trouve que là, ce week-end, j'étais justement en Catalogne avec Michel Écart Elial.
Voilà. Exactement. Voilà, c'est l'éditeur.
Quel éditeur, oui. Voilà. Alors, on va vous demander, Demosthène, de bien vouloir peut-être... je me souviens que Joëlle, quand elle était dans ce studio-là, nous a parlé d'une poète, femme poète, qui venait de disparaître.
Et oui, c'était Natasha Hadzidaki, voilà, qui était aussi une poétesse
et qui fait
très
partie,
importante.
Voilà, qui est dans votre anthologie, bien entendu.
Oui, qui est dans l'anthologie.
Hadzidaki. Est-ce qu'éventuellement vous pourriez nous dire quelques mots sur cette dire quelques textes
qui sont dans l'anthologie, oui. grand plaisir, parce que c'était une poétesse qui avait beaucoup de force. C'était une force extraordinaire. Elle était très active, très dynamique. Elle travaillait aussi à la radio grecque. Elle a eu l'occasion de promouvoir la poésie moderne. Elle a travaillé en Angleterre pour BBC. Elle était comme vous,
oui,
poète qui travaillait dans
la radio.
Alors, elle aussi, il y avait ici à Athènes un groupe de poésie visuelle. Elle faisait partie de ce groupe de poésie visuelle. Et aussi, elle avait des intérêts aussi littéraires. Elle a beaucoup travaillé sur la question des féminités, la question des féminismes aussi, la question des autour de la question des matriarcat aussi. Il y avait un intérêt pour le matriarcat. Et voilà, peut-être on peut lire un poème sur cette question de mitriarchia, qui c'est en grec, c'était autour de la question de patriarcat et matriarcat, et la question du pouvoir entre les sexes. Alors, Je vais lire un poème qui s'appelle Skinès apototelos tis mitriarchias. C'est scène de la fin de Matriaca. Je vais lire en grec et Marie-Hélène en français. Ieria. Ένα ραγδαίο μεσημέρι στο Ραμνούντα έφτασα. Διωχμένη από το τέμπλο της Βαυρώνας, κατά τον τρόπο εξής. Η Άρτεμις της ακολούθησης της απέλυσε και κλείδωσε το ιερό. Ανέβηκε στο αμάξι και περίμενε. Δύο σκλάβες είχαν φορτώσει τις κασέλες της, φτιαγμένες από πολύτιμα μέταλλα, με υφάσματα, να λάμπουν και διπλωμένες Ιαπωνέζικες βεντάλιες που έπεσαν από τον ουρανό ένα απόγευμα που βυσούσε ανατολικός άνεμος. Χτυπά τα άλογα με τα δεμένα μάτια, κρυφά μηνύματα έχει πάρει. Ο νέος εραστής της σε πύργο μεσαιωνικό την περιμένει. Κονικό στέμα, πυργοδέσποινα σε άντεκτο σιδηρουργείο ετοιμάζει.
Scène de la fin du matriarcat. La prêtresse. Par un midi violent, je suis arrivée à Ramnant. Chassée de l'iconostase de Brabron, comme à l'accoutumée. Artémis a congédié ses servantes et fermé le sanctuaire. Elle est montée sur le char qui l'attendait. Deux esclaves avaient chargé ses coffres, faits de métaux précieux et de tissus resplendissants, et des éventails japonais refermés, tombés du ciel un après-midi que le vent d'est soufflait. Elle frappe les chevaux aux yeux bandés, elle a reçu des messages secrets. Son nouvel amant l'attend dans un château médiéval. Il apprête la couronne conique de maîtresse du château dans la forge implacable. Artémis. J'ai quitté celle qui m'accompagnait, celle qui pleurait. Le vent les pousse maintenant dans le fossé. Les herbes engendrent la poussière. Les marbres, la lumière inerte et insidieuse les dessèchent. La forêt s'unifie. J'entends mes cerfs tomber dans les grottes obscures. Les reptiles s'enroulent pendant que le bé lève l'ancre. Belle, ouverte, au triple augure. Je le sens, un jeune homme et la vie, comme un petit jardin qui vient d'être labouré. Je l'attends et je n'ai déjà plus à chercher la mer quand je le trouve. Salut, Broron. Souhaite-moi un voyage splendide.
Voilà, je crois que c'est un hommage à Natasha Hajizaki.
Qui fait partie, bien sûr, de l'anthologie.
Et surtout une pièce, parce que ça, c'est presque c'est une pièce de théâtre qu'elle a écrite sur la question des matriarcats.
Matriarcat, voilà. Et c'est évidemment dans l'anthologie, c'est la page 107 de l'anthologie de la poésie grecque dont nous avons parlé.
Exactement.
Alors, Demosthène, on va vous demander de nouveau de nous lire des textes de vous.
Un grand plaisir. Peut-être qu'on va lire un poème, parce que vous avez fait ce festival de poésie autour de la neige, non?
Oui,
c'est ça?
Oui, oui, oui.
Alors, parce que c'est, j'ai écrit un poème sur le même thème. Alors, peut-être on trouve l'occasion de les lire. Comme ça, on peut avoir 51 poèmes.
C'est
51 qui vient un peu tard, mais il arrive. Alors, Χριστούγεννα, προχωρούσαμε μέσα στο χιόνι. Βουνά σφιγμένα από τη μεμβράνη του χιονιού, αντιφεγγίσματα χρωμάτων, ανθρώπινες σκιές πίσω από φωτισμένα παράθυρα. Στιγμές ανοιχτές, στιγμές νεκρωμένης θέλησης. Μπροστά στη μεταμόρφωση μιας ζωής που το σύμβολό της χάθηκε στο πέλαγος των μικρών ευχών. Ήρεμη. Ούτε μια εξήγηση, ούτε μια πίστη.
Noël. Nous progressions dans la neige. Montagnes enserrées dans une membrane de neige. Réverbération des couleurs. Ombres humaines derrière les fenêtres illuminées. Instants ouverts, instants de volonté anéantis face à la métamorphose d'une vie dont le symbole s'est perdu dans l'océan des souhaits ordinaires. Sérénité, aucune explication, aucune croyance.
Voilà. Les poèmes appartiennent au livre Isomorphisme,
oui,
qui a été traduit en français et en allemand. Il y a une édition en forêt. Et c'était la traduction française a été faite par Claire Benedetti.
Ah, Benedetti, ah, oui, oui, elle est...
Voilà, c'est ça la...
Oui, oui, c'est un nom que l'on voit souvent, hein, Claire Benedetti, oui, oui, oui.
Oui, au début, parce qu'elle était ici à Athènes, elle était française.
Oui, oui, oui.
Elle a traduit mes premiers livres.
Ah oui, oui, oui.
Mais malheureusement, elle est morte.
Oui, oui.
Avec question des cancers, tout ça, c'était une histoire triste. Et maintenant, la traduction de mes poèmes est faite par Michel Vallée. C'est elle qui traduit mes poèmes en français. Alors peut-être on peut dire un autre poème aussi.
Oui, bien sûr.
Qui vient des livres d'Ialitica. Alors ces poèmes sont traduits par Gérard Pierrat. Les livres ont été publiés par les éditions La Rumeur Libre l'année dernière. Προϊστορική θλίψη, κουλουριασμένος σε κέλυφος διαφανές, αδιαφορώ για τις γνώσεις, τις χρήσεις, σαλεύω μονάχα για τις αποστάσεις, το άδεσμα των εικόνων στη μεγάλη φαγάνα.
Affiliation préhistorique. Recroquevillé dans une coquille transparente, indifférent aux connaissances, aux usages, à peine si je bouge, pour les distances, l'évacuation des images à la grande drague.
Alors, un deuxième poème du même livre, toujours d'Ialitica, traduction par Gérard Pierrat. Επιβεβαίωση, εκτέλεση, στο στίχημα των κοινών σημείων, αγνοούνται οι κατάλογοι εργατών. Ουτοπία. Επιφάνειες, απογορευτικά σήματα, βιβλία με τρύπες. Όλα καίγονται. Κατακλυσμός επαναλήψεων.
Confirmation, exécution. Au Paris des points communs, on ignore les listes de travailleurs. Utopie. Surface, signaux d'interdiction, livres criblés, tout brûle. Cataclysme de répétition.
Voilà, c'est mon dernier livre qui a été publié en France en 2016.
Donc, très récent, très récemment.
Très récent, oui, c'est le dernier livre.
Oui.
Alors, parfois, il y a un petit problème parce que j'ai publié presque une vingtaine de livres en français.
Oui.
Et aux États-Unis, on me pose la question, est-ce que je suis un poète français ou un poète grec?
Oui, oui.
Donc, alors, j'évite de dire, voilà, je suis un poète européen.
C'est bien, c'est bien.
J'ai eu la chance extraordinaire d'avoir cet accueil en France.
Oui.
Alors, je garde toujours une reconnaissance profonde. Oui. Mais
Est-ce que les
dialogues continuent?
Ils sont en bilingue. C'est bilingue. Où est-ce que... Votre dernière publication là.
Oui, c'est un bilingue,
oui.
C'est publié par La Rumeur Libre. C'est dirigé par André Covella. C'est lui qui a publié le livre.
D'accord. Alors, pour les auditeurs, je dis que vous trouverez tous ces renseignements des publications de Demosthène Agrafiotis sur notre site les-poètes.fr et sur le compte rendu, bien sûr, de l'émission que vous écoutez.
Oui, aussi sur mon site web.
Alors, voilà, oui.
www.agrafiotis.com.
Voilà.
Il y a la version française du site.
C'est bien.
Et si il y a une place spéciale pour section pour les livres et surtout pour mes livres en poésie en français.
En français, très bien.
Alors c'est très facile pour les Français d'avoir un accès au moins sur les titres de mon travail.
Très bien.
J'aimerais aussi lire un poème qui était... C'est un poème qui vient du livre Cahier chinois.
Oui.
C'est un livre qui a été publié en France, à Bordeaux, par les éditions O. Mais surtout, ce poème a été traduit en français par un ami très, très proche, un ami poète, qui a une admiration énorme. C'est le poète Emmanuel Ocard. Alors, le poème vient du livre Kinesh Gotetradio, Cahier chinois. Et je vais lire le poème en grec et en français. C'est comme ça que vous allez avoir une trace de ma voix en lisant un poème en français.
Très bien, merci.
Cafetes horizontes sires grammatum. Epigraphes. I fili cremniude breloc sestenes zones anamnision. Engraphes. Θεματολογία της επαρχίας, υποδόρια κενά, χωρίς αποδείξεις. Παραγραφές. Απολογισμοί, πλάγι, κάθετη. Vertical, horizontal, série de lettres. Description. Ami breloque, agrafé, aux ceintures étroites des souvenirs. Inscription. Thématologie des provinces, lacune sur la peau, aucune preuve. Prescription. Bilan oblique, verticaux. Voilà, c'était un hommage à Emmanuel Ocard.
Emmanuel Ocard.
J'ai eu l'occasion de travailler avec lui quand il était à Paris. Et c'était là. Et surtout aux années 70, à Paris, c'était un groupe de poètes, que c'était Emmanuel Ocard, Claude Royer-Journoux, Amari Herbiac, Dominique Foucade, c'était le fameux groupe du Blanc. Et c'était là une époque que j'ai appris beaucoup de choses avec eux. Et j'ai toujours une reconnaissance pour leur amitié et leur aide. Alors, on peut dire un autre poème.
Oui, oui, bien sûr.
Comme ça, c'est là, ça vient aussi de. C'est toujours de Kinesh Gotetradio. Alors, c'est la traduction du poème en français. C'était fait par Michel Vallée, c'est cela. Et le livre Cahier chinois a été publié à Bordeaux, comme j'ai répété, édition O, et c'était 2010. Voilà. Le poème en grec, Ídola. Αποδείξεις κατανάλωσης και γενεοδορίας, σκορπισμένα ανάμεσα σε κρίσεις εφοριακών. Κτίσιμο αργό από δάχτυλα αφιερωμένα σε όργανα και φιλοδορήματα. Οι όρθιοι πελάτες σπρώχουν το μέτωπο προς τα ταμεία για να τιμηθούν οι διαφανείς ματιές των κουρασμένων κοριτσιών. Οι συνταγές διαφεύγουν από τους πολλαπλασιασμούς τα σταθή μεγέθη. Απόδοση λογαριασμών. Βέβαιος ο διαφθορέας απαιτεί αλκοόλ και 5 τελευταία λεπτά για να απλουστεύσει την εκφορά. Το μητερό παπούτσι επιβάλλει την καθαίρεση του αυστηρού ρυθμού. Οι μονόχρωμες φιγούρες συνοδεύουν σερβιτόρους, η στήλβη των ποτηριών συμμαχεί με τις αιτήσεις για να αυξηθούν οι αφορμές ειδιπάθειας. Ισόποσες βολές. Απόϊχοι βιβλίων και τριγώνων λειτουργούν σε πυρωμένα καθίσματα. Σκιές σε διαχέωσες αναγνωρίσεις, αγκαλιάσματα χωρίς φλεγμονές. Κλάματα για τους άνδρες, καθώς επιβάλλονται κύβδιλα νομίσματα.
Idole. Preuve de consommation et de générosité dispersée parmi les jugements des percepteurs. Construction lente par des doigts consacrés aux instruments et aux pourboires. Les clients debout poussent le front vers les caisses pour que soient appréciés les regards transparents des jeunes filles fatiguées. Les recettes fuient, les proliférations, les tailles instables. Rendement des comptes. Le séducteur sûr de lui exige de l'alcool et 5 minutes encore pour simplifier l'énonciation. Les chaussures pointues imposent la destitution du rythme sévère. Les silhouettes monochromes accompagnent les serveurs. La brillance des vers s'accorde aux demandes, pour qu'augmentent les prétextes à la sensualité. Tirs équivalents, retentissement des livres et des triangles, fonctionnant sur des sièges brûlants. Ombre aux reconnaissances dispersées, étreintes sans enflammation. Pleurs pour les hommes alors que sont imposées de fausses monnaies. Masques méprisés, absorbés par les revendications de dignité lors d'invitations en famille. Pas, moi pas, moi, chantage.
Voilà, ce sont des poèmes du livre Cahier chinois, traduit en français par Michel Vallet.
On va vous demander peut-être dans deux, trois minutes encore de lecture, mais avant je voudrais vous poser une question sur votre travail de performeur.
Oui.
Vous êtes poète-performeur.
Oui.
En quoi cela consiste-t-il? Est-ce que vous pouvez, en quelques mots, nous dire
Oui.
Hein, nous parler de ce type de poésie.
Alors, c'est la... Parce que souvent, on a fait cette lecture ici, il y a le texte, mais je peux faire une lecture du même texte avec un esprit plus performatif. Cela veut dire qu'on pourrait ajouter au niveau du sens du poème, on peut donner aussi une expression sonore, et aussi on peut, s'il y a l'espace aussi, on peut mettre le corps au service du poème. Oui. Alors c'est la différence avec la poésie soi-disant linéaire ou la poésie classique. Quand la poésie devient une sorte de poésie performative, il y a toujours les petits détails qui sont utilisés pour ajouter des éléments, des sens, des plaisirs, des questionnements aussi. Alors, je peux faire une petite démonstration en grec.
Oui.
Comment on peut faire le premier poème qu'on a lu, qui vient du livre Το poème, voilà une performance ou une lecture performative. Epoi epoi ton bodikon, epoi epsilon pi omikron hi epoi ton bodikon, epoi της ανάπαυσης, απορρίμματα από την επιστροφή των συγχρόνων, θάλασσα, θάλασσα, νύχτες δίχως ισοδύναμα, με ερωτήματα δίχως νόρμες, ανάκτηση, κυκλοφορία, παράλληλη. Τρόποι φόβος των κυρίων, πρωινές πορτοτικές, ήθος, τόσος, πίθος, μύθος, πώς, τόσος, ως. Voilà, une petite démonstration.
Merci.
Comment on peut agir. Et parfois, il y a toujours, aujourd'hui je travaille beaucoup avec des musiciens, et comme ça on peut créer une sorte de dialogue entre la poésie et la musique.
Oui,
mais il y a une petite différence qu'on travaille avec une certaine équivalence entre la poésie et la musique. Ça signifie que je donne un texte et avec les compositeurs, on travaille. Par exemple, je vous donne un exemple très précis. Il y avait un poème qui s'appelle... c'est le poème Cahier chinois. On a transformé les livres avec le système Morse. Vous connaissez les systèmes Morse?
Oui.
On a transformé ça, tous les livres, sur une sorte d'image avec les signes de Morse.
Oui,
et après, on a appliqué sur ces poèmes un algorithme musical.
Oh.
Et avec cet algorithme musical, on a produit un autre travail. Et moi, j'étais toujours avec les compositeurs. Et à la fin, on a trouvé un matériel musical. Et le compositeur a écrit une musique pour un violon et aussi pour violoncello. Et après, on a fait une lecture performative dans laquelle moi, j'ai lu encore une fois les poèmes. Il y avait la musique qui était produite de manière électronique par les compositeurs et en plus par le musicien. Alors, on a fait une sorte de... C'est l'esprit d'Hermidia et c'est le dialogue entre la musique et la poésie qui s'est fait pas de manière traditionnelle, soi-disant... Je donnais mes poèmes à un compositeur et lui, il a une inspiration pour faire la musique et le poème, mais on a travaillé pour produire ensemble un objet artistique dans lequel il y a une dimension poétique, une dimension musicale, et tout ça dans une perspective performative.
D'accord. C'est-à-dire d'une théorisation et une mise en scène. Hein?
Voilà. Et il y a une sorte une recherche au niveau des équivalences artistiques, et après, il y a un effort d'exploiter toutes les richesses qui se trouvent dans un poème.
D'accord.
Ça signifie les rythmes latents, les rythmes musicaux, et aussi d'introduire aussi des instruments de musique, par exemple, qui pourront créer une atmosphère. Et quand il y a la performance du poème, il y a déjà une préparation. Et parfois, on appelle ça improvisation structurale. Parce qu'il y a un côté, il y a l'improvisation, mais pour faire cette improvisation, il y a un travail énorme derrière.
D'accord.
Pour arriver à faire une improvisation. C'est pas une improvisation qu'on fait...
C'est une improvisation bien préparée, quoi.
Bien préparée, oui. Oh, c'est ça, c'est bien structuré, élaboré.
Oui.
Voilà, c'est ça l'idée. Oui. Et maintenant, j'ai fait beaucoup de mes livres.
Oui.
Et aussi, parfois, il y a toujours des livres avec les photos, des livres avec les dessins, à moi et avec d'autres. Et voilà, c'est toujours cet effort. Et j'appelle ça un esprit performatif, dans la mesure qu'il y a ce dialogue continu entre les différentes expressions artistiques et l'expression poétique.
Demosthène, pour finir, on va vous demander, et on va finir là-dessus, de nous lire, il reste deux, trois minutes, hein, de nous lire donc vos textes sur ces deux, trois minutes.
Ok, parfait. Alors je vais lire un poème en grec et Marie-Hélène Stavrou va lire en français. On prend encore une fois des livres dialytica. Les livres dialytica, Prostasia, Prolepsi, Epimoni Bosa στον καθρέφτη. Ο μετανάστης τόλμησε να βγει στη βιτρίνα και οπωσδήποτε προσήλωση στις κατασκευές από πέτρα.
Protection, prévision, insistance devant le miroir. L'émigré a osé paraître à la vitrine. Et de toute façon, attachement aux constructions en pierre.
Voilà, c'est ça. La... On a le temps pour encore un?
Alors, Claude, le technicien me dit dans une minute ou deux. On vous écoute, allez-y.
D'accord, alors le dernier. Vitrina gemati, blé aéreo, sidoges mation, skies. Οι προσκυνητές θαυμάζουν, οι αμερικά μανταλάκια προσφέρουν ό,τι απόμεινε από την καλοσύνη τους.
Vitrine pleine de gaz bleu, collection Dieu, ombre. Les pèlerins s'émerveillent. Au prix de quelques hardes, ils offrent ce qui subsiste de leur bonté.
Voilà, c'est ce de la... le dernier poème lu par Athènes.
Merci beaucoup, Demosthène. Merci beaucoup, Marie-Hélène.
Grand merci pour votre accueil et votre
lecture,
hospitalité.
Voilà. Et donc, nous rappellerons alors l'anthologie de la poésie grecque aux éditions L'Harmattan, et puis tous les livres de Demosthène que vous trouverez sur son site www.agraphiotis.org, c'est ça?
www.dagraphiotis.com.
Pardon,
oui.
.com, voilà.
Voilà. Et l'autre, c'est autour de la question de la crise.
Ah oui,
c'est www.crisiology.org. Voilà, mais c'est très facile dès qu'on met mon nom
sur Google. D'accord.
C'est tout est facile. Alors, grand merci pour votre accueil.
C'est nous qui vous remercions beaucoup.
Et à bientôt.
Beaucoup.
Merci
et
bien.
À très bientôt. Au revoir.
Au revoir. Au revoir.
Claude et moi, nous vous disons à la semaine prochaine. Bonsoir, à Dichasse.